grande découverte. L'homme le plus fort au monde. L'homme le plus fort au monde, c'est l'homme le plus seul.
L'homme le plus fort au monde et l'homme le plus seul, ainsi se termine Un ennemi du peuple, chef-d'œuvre du Norvégien Henrik Ibsen, écrit en 1882 et que l'on peut voir et entendre en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris dans la mise en scène de Jean-François Civadier, qui a l'art de se jouer du temps et de rendre ultra contemporaine les pièces de théâtre les plus classiques. Bonjour Jean-François Civadier.
Bonjour.
Shakespeare, Molière, Brecht, aujourd'hui Ibsen, vous aimez les classiques?
Oui, alors évidemment Ibsen, on peut se dire que c'est un peu l'inventeur du théâtre moderne, donc c'est peut-être un faux classique finalement. Les thèmes qu'il a développés dans ses pièces sont toujours d'actualité, les questions qu'il y pose sont toujours sans réponse, particulièrement celles qui sont posées dans L'ennemi du peuple. Donc c'est pas vraiment un classique, particulièrement cette pièce qui est à cause de cette question de l'écologie, du mélange entre les questions écologiques, politiques, économiques, etc., sont aujourd'hui une actualité aussi brûlante que terrifiante, et beaucoup plus même qu'il y a une quinzaine d'années d'ailleurs.
Alors on va dire un mot de la pièce, et bien évidemment on en reparlera. Un ennemi du peuple, c'est l'histoire d'un lanceur d'alerte, on pourrait dire ça aujourd'hui,
ouais.
C'est-à-dire d'un homme qui considère que les eaux de la station thermale dans laquelle il travaille sont polluées, qui veut alerter la population et qui se heurte bien évidemment à la fois au mur de l'argent, de la bourgeoisie, à tous ceux qui voient l'aspect économique de ces termes et pas forcément l'aspect sanitaire. Mais quand je dis que vous rendez les classiques ultra contemporains, je parle pas bien sûr d'artifices de mise en scène ou de costumes du quotidien, jean, t-shirt, etc. C'est plus de sens, j'ai l'impression que vous inscrivez la pièce que l'on voit dans notre présence, qui devrait être la nature même du théâtre d'ailleurs.
Oui. Mais je sais pas exactement à quoi ça tient. Je pense que c'est l'affirmation que les acteurs qui sont sur le plateau sont vraiment en train de faire une expérience en direct devant le public et de se confronter à un texte qui a été écrit à une certaine époque, mais qui ne sont pas en train de reconstituer quelque chose, mais de faire une expérience en direct avec la langue, avec les thèmes de la pièce, etc.
Mais vous y prenez comment pour obtenir cela, vous savez?
Je sais pas.
Parce que c'est le cas depuis le début de votre carrière de metteur en scène.
Hein. C'est une façon d'envisager le partage entre le public et la salle d'une certaine manière, d'imaginer que il n'y a pas de fiction dans la représentation, qu'il y a le temps de l'histoire et le temps de la représentation, c'est le même temps, qu'il y a un même espace qui réunit les acteurs et les spectateurs, et qu'on fait tous une expérience autour d'un texte. Voilà, après on essaie de mettre en valeur et en crise le temps du théâtre qui est le présent. Ouais.
Alors il n'y a pas de quatrième mur par exemple chez vous,
non,
qui est ce terme qui a été je crois créé par Diderot mais très utilisé au 19e siècle, qui laisserait à penser qu'il y a justement un mur invisible entre la scène et le public. Pour vous, pas de quatrième
Encore
mur.
Encore qu'on s'est un petit peu amusé avec Ibsen à se dire tiens, particulièrement pendant l'acte 1, on va s'amuser à inventer notre propre quatrième mur. Bon, il explose assez vite, en l'occurrence, dans la mise en scène, mais c'est intéressant ce truc du quatrième mur, parce que finalement, c'est une chose qu'on fait maintenant assez naturellement, mais j'aime aussi beaucoup aller voir des spectacles où il y a un énorme quatrième mur. C'est pas pour ça qu'on est plus ou moins touché par le spectacle. C'est pas le fait d'enlever le quatrième mur qui fait que le spectateur se sent plus concerné par le spectacle qu'il est venu voir, à mon avis.
De toute façon, l'idée n'est pas de faire du réalisme en tant que tel. Alors, l'histoire de Thomas Stockmann, Un ennemi du peuple, c'est donc aussi une réflexion autour de la démocratie politique, de la vérité. Conversation avec Jean-François Civadier à suivre après La Horde de la Maison Tellier.
Parfois Helmut, ne ferais-tu pas fausse route quand tu dis que c'est plié? Fais pas comme la dernière fois, ne me laisse plus dans l'état où tu m'avais retrouvé. Sur mes cahiers d'écolier, sur les portes du lycée, j'écris ton nom, puberté. Puberté, j'écris ton nom sans bien savoir la raison. J'ai fini par accepter de m'être perdu quelque part, mu par les écrans blafards et une enfance à la fenêtre. Dimanche soir, Louis de Funès, dortoir et livre de fesses et un double décimètre.
La Maison Tellier à l'affiche de RFI avec notre invité Jean-François Civadier qui signe la mise en scène de Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen au théâtre de l'Odéon. Alors, faut peut-être un peu resituer Jean-François Civadier, ce texte dans l'œuvre d'Ibsen. C'est quand même l'un des plus politiques.
Ouais, c'est vraiment une pièce à part. C'est sa pièce la plus drôle, la plus ouvertement politique, la plus limpide aussi dans son intrigue. Et puis, c'est la première fois qu'Ibsen vient lui-même sur scène dans la peau du docteur Stockmann, enfin d'un de ses protagonistes, pour venir un peu déclarer la guerre à ses ennemis, ses détracteurs, ceux qui l'ont traîné dans la boue à l'occasion des créations de ses pièces précédentes que sont Les Revenants et Daga Blair, Maison de Poupée, et il vient en gros leur dire vous m'aimez pas, je vous aime pas non plus, vous avez pas aimé les autres pièces, vous allez détester Un ennemi du peuple. Ibsen, c'est un auteur à scandale par définition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient poser des bombes sur le plateau, qui vient détruire, qui vient défier voilà, les spectateurs. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point d'ailleurs ça marche encore aujourd'hui, enfin, en l'occurrence sur L'ennemi du peuple. Mais c'est L'ennemi du peuple, c'est vraiment écrit par un homme en colère, un artiste blessé qui vient défier ses ennemis. Ouais. Et ça se sent énormément parce qu'il prend absolument aucune pincette pour faire passer son message, qui est d'une violence et d'une virulence incroyable.
Oui, c'est l'affrontement en fait de deux logiques. Il y a la logique de Stockmann, donc ce médecin qui veut dire la vérité sur l'état des eaux thermales, et puis il y a la société d'une certaine façon.
Bah oui, puis il y a ceux qui pensent que la vérité, même si elle est incontestable, elle est relative à des enjeux qui peuvent être plus importants que la vérité, comme c'est le cas aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Donc, moi, ce qui me faisait un peu peur au départ, c'est l'apparent manichéisme qu'il y a dans la pièce. Je me disais, oui, il y a quand même d'un côté le bon et de l'autre les méchants. Et en fait, c'est pas si simple. Parce que tous les gens sont vraiment totalement ambigus dans cette pièce. C'est vraiment la pièce de l'ambiguïté. Les spectateurs qui viennent voir le spectacle nous disent « Ah oui, c'est incroyable à quel point on est tout le temps bousculé dans nos convictions quand on voit les personnages. » Et puis effectivement, le coup de maître d'Ibsen, c'est cette métamorphose du protagoniste principal qu'on suit comme un lanceur d'alerte héroïque, intègre, honnête pendant trois actes, et qui, à l'occasion du quatrième acte, va se transformer en une espèce de bête politique monstrueuse qui veut exterminer tous ceux qui sont pas d'accord avec lui.
Nicolas Bouchaud, Vincent Guédon, extrait de Un ennemi du peuple.
Belle sœur, vous êtes probablement la personne la plus raisonnable de cette maison. Usez de l'influence que vous pourriez avoir sur votre mari. Faites-lui comprendre les conséquences de son acte, tant pour sa famille.
La famille ne concerne que moi.
Tant pour sa famille que pour la ville dans laquelle il vit.
C'est moi qui veux le bien véritable de la ville.
Mais toi qui, dans ton entêtement aveugle, la prive de sa principale source de revenus.
Cette source est empoisonnée, mon vieux, t'es fou. Nous vivons du commerce de l'immondice et du mensonge. Toute notre vie sociale florissante tire ses revenus d'un mensonge.
Imagination, fantasme, ou pire encore, l'homme qui propage d'aussi blessantes insinuations contre sa propre ville, il faut qu'il soit un ennemi de la société.
Et toute la pièce raconte donc ce retournement, comment celui qui se vit, vous le disiez Jean-François Civadier, comme un héros devient un ennemi de la société, mais il y participe un peu à cette métamorphose, parce que c'est aussi le portrait d'un homme qui se radicalise de plus en plus.
Complètement, et puis d'un homme, d'un petit bourgeois de province, égoïste, misogyne, qui ne pense qu'à l'argent, enfin, comme aussi les gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui va se retrouver à devoir prendre un chemin politique, alors que lui n'a aucune conscience politique, qui risque de se retrouver effectivement le premier homme de la ville, alors qu'il n'a aucun projet pour ses concitoyens. Il se contente de dire la vérité en pensant que la vérité va rallier toute la population à sa cause. Et que tout le monde va s'écraser devant lui parce qu'il aura une vérité scientifique dans les mains, etc. Et évidemment, c'est le contraire qui se passe.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être un héros ?
Il y a une question très intéressante déjà. Je suis content parce que les spectateurs s'en aperçoivent quand même. C'est qu'à la fin de l'acte 1, quand il découvre que les eaux sont empoisonnées, tout de suite, il y a un journaliste en face de lui qui lui dit « c'est extraordinaire, vous allez devenir l'homme le plus important de la ville ». C'est-à-dire que très vite, une fois qu'il a découvert ce qu'il a découvert, l'empoisonnement des eaux, tout de suite, on s'occupe de lui et on ne regarde plus que lui. C'est-à-dire qu'on regarde le lanceur d'alerte au lieu de s'occuper de son message. Parce que quand même, cette bactérie qu'il a découvert est assez dangereuse puisque il y a des gens qui risquent de crever à cause de l'empoisonnement des eaux. Et tout de suite, on pense que le sujet principal, c'est lui, qui est-il, qu'est-ce qu'il va faire avec cette découverte. Et puis très vite, dès l'acte 2, on lui dit « mais ce que tu as découvert représente quelque chose et c'est peut-être le moyen de renverser le pouvoir en place ». Et donc très vite, on oublie totalement le sujet écologique pour s'occuper que du sujet politique.
Et en même temps, l'ensemble de ce qu'il appelle la majorité compacte, c'est-à-dire de la société, l'association des petits propriétaires, mais aussi la presse, on pourrait appeler ça l'opinion publique, se range à ses côtés tout de suite et souhaite à la limite ce renversement de pouvoir.
Bien sûr.
Sauf que quand ça commence à leur avoir des conséquences économiques pour eux, c'est là où ils se rétractent.
Oui, quand ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir payer eux et pas les actionnaires, ils le lâchent tout de suite. Mais je pense que Ibsen, il fait un peu le portrait ironique et un peu lapidaire comme ça d'une petite micro-société qui se regarde elle-même, qui est en paix quand l'argent afflue et qui devient monstrueuse quand l'économie est menacée, et qui a un irrépressible besoin de trouver un homme providentiel. C'est-à-dire quelqu'un qui va tout à coup être celui qui va représenter à lui seul l'avenir possible de la petite ville de province où ils sont. Et cette chose du culte de l'individu et de la personnalité, je crois que Ibsen, il le dénonce quand même un peu, il s'en moque un peu, même si lui, Ibsen, est totalement individualiste.
Et vous, Jean-François Civadier, vous faites le portrait de qui ?
Bah, des deux, enfin de tout le monde, y compris de la femme de Stockmann, y compris... c'est-à-dire notre grande appréhension quand on a commencé le travail, c'était de faire de Stockmann justement un héros. C'est pas un héros d'ailleurs, comme il le dit lui-même, il a fait que découvrir cette pollution. Donc c'est pas forcément héroïque, c'est voilà, il a juste... Donc de pas en faire un héros dans la première partie de la pièce et donc de pas en faire une victime dans la deuxième partie de la pièce.
C'est-à-dire mais vous n'avez pas eu un modèle, il n'y a pas eu un homme politique qui vous aurait éventuellement inspiré.
Non. Mais ce qui est incroyable, c'est évidemment de voir. Moi, je pensais pas que les gens allaient rire à ce point dans le spectacle. C'est de voir à quel point le texte d'Ibsen résonne aujourd'hui. Et qu'on entend sur le plateau des phrases qu'on peut entendre dans la bouche de certains de nos politiques. Voilà.
Vous en rajoutez quelques-unes, quand même, me semble-t-il. En tout cas, dans cette mise en scène, vous interpellez le public et vous faites dire à Nicolas Bouchot un texte, c'est à l'acte 4, qui est une diatribe contre, si ce n'est le théâtre, au moins contre le public.
Voilà, le public est devenu le centre de la cérémonie. Mais à force de mettre le public au centre, à force de le caresser dans le sens du poil, à force de l'inviter à parler, à force de l'inviter à danser, à force de lui servir des coups de rouge, et le public est devenu une masse molle. Mais c'est vrai, éternellement satisfaite, béatement satisfaite. C'est tragique. Moi, je vois des spectacles magnifiques, les gens applaudissent, d'accord. Je vois des spectacles exécrables, les gens applaudissent pareil. Il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème. Là, on est dans le mur. Là, c'est difficile. On est à l'acte 4 de la pièce. Et Stockmann,
Il doit parler à une foule. Je dois vous parler. Je dois vous molester un peu. On aurait eu des figurants, on aurait fait ça à l'ancienne, avec un quatrième mur. Vous auriez assisté à ça tranquillement. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, je suis obligé un peu de vous parler. Je suis un peu obligé de vous titiller, tout ça. Et en même temps, je suis pris dans le truc du rapport public, vous voyez. Je me dis en même temps, il ne faut pas être trop dur avec eux et tout ça. Donc, je suis dans cette situation. Vraiment, je suis dans le dur, là. Je suis vraiment dans le dur. Ok, vous êtes des faux.
Traiter les spectateurs de veaux, fallait quand même oser, Jean-François Sibadier.
Oui, mais là, d'une part, on est à fond, à mon avis, dans le propos d'Ibsen, et aussi dans cette idée qu'on avait que même l'acteur qui faisait le docteur Stockmann dans la pièce, hein, c'est-à-dire que le docteur Stockmann dans la pièce, dans le quatrième acte, pète un peu un câble, en essayant de parler de cette asphyxie qu'il sent dans la société, qui tue l'individu, qui tue la liberté, etc. Et on s'est dit, ce qui serait beau, c'est de pousser le truc à tel point que l'acteur lui-même ne supporte plus le carcan d'un texte classique, le carcan de la mise en scène, de la représentation, et voilà, sorte de ses gonds.
Oui, parce que ce sont vos mots, là.
Oui,
Ou les mots issus de répétition et d'improvisation.
On a fait un canevas avec Nicolas, qui a improvisé en répétition. On a écrit des choses avec Véronique Timsit, qui travaille à la collaboration artistique avec moi. Et qui, on a essayé de faire une espèce de canevas dans lequel il y a en fait très peu d'improvisation, même si Nicolas, quelquefois, il rajoute un mot.
En marche, par exemple.
Comment?
En marche, par exemple. Non. Ou en même temps.
Oui.
Est-ce que quand même vous avez des choses à régler avec le théâtre ou avec le public?
Oui,
en choisissant à la fois ce texte et ce parti pris.
C'est quand même une autocritique, hein, parce que Nicolas qui dit ça fait 30 ans que je fais du rapport public, c'est quand même beaucoup avec dans les mises en scène que j'ai faites.
Oui, parce que ça fait quasiment 30 ans que vous travaillez ensemble.
Voilà. Donc c'est quand même une autocritique, c'est une façon de se mettre soi-même en question, etc. Non, mais c'est dans cette façon, tout à coup, enfin que Nicolas dénonce justement dans le spectacle, dont on a depuis pas très longtemps que ça, en fait, mis effectivement le public à certains moments au centre de la représentation. Et le problème, c'est quand ça enlève tout à coup le centre de gravité de ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire que tout à coup, le danger, ce serait que la représentation devienne une espèce de cérémonie sympathique où on aurait invité des amis et tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Et donc,
il ne faut pas que ça empêche de jouer, comme
il faut pas que ça
dit. Et vous, vous aimez ça jouer, Jean-François Sibadier. Vous demandez d'ailleurs à vos comédiens et comédiennes de jouer dans tous les registres possibles du jeu.
Oui, enfin la mise en théâtre des situations, c'est ça, à mon avis, qui permet de jouer avec le public, de créer un dialogue avec le public, de réveiller son esprit critique, de montrer, d'affirmer qu'on est au théâtre pour que, finalement, la réalité quand même puisse advenir.
Donc on va du murmure à la déclamation complètement outrancière, par exemple, dans la nuit du peuple.
Ouais. Moi j'aime bien que, j'aime bien que, par exemple, Catherine Stockmann, à un certain moment, devienne extrêmement lyrique pour faire passer une émotion, et puis tout à coup extrêmement triviale. Ça, c'est des choses, des couches qu'on découvre dans le texte, et qui devient intéressante à partir du moment où on enlève complètement cette notion de la logique du comportement du personnage, et qu'il n'y a pas de logique, il n'y a que des acteurs qui se confrontent à une écriture.
Et vous souhaitez réveiller le public, dites-vous, Jean-François Sibadier, et c'est vrai que dans ce processus-là, vous faites de nous, public, d'une certaine façon, des citoyens qui sommes amené à se prononcer sur ce qui se passe sur scène et éventuellement à se lever ou à rester assis pour désigner Stockmann comme ennemi de la société ou pas.
Ouais, alors là, bon courage, parce que justement, les gens ne savent absolument plus du tout où ils habitent à la fin de la présentation, mais c'est sûr que ce qui est intéressant avec Ibsen, c'est qu'il pose des questions, il n'apporte aucune réponse. C'est-à-dire qu'il trouble vraiment les gens sur cette question, et il y a plein de gens qui nous disent, mais moi je sais pas si c'est un ennemi du peuple ou pas, si c'est un, et voilà, et il y a pas de réponse, et finalement, et c'est peut-être il est peut-être les deux à la fois, et puis c'est peut-être les autres l'ennemi du peuple.
Mais si Ibsen pose la question sans réponse, vous êtes un peu pervers dans la façon de poser la question aussi, Jean-François Sibadier, parce que vous proposez au public de rester assis s'il considère que Stockmann est un ennemi du peuple.
Oui, oui.
Donc, non, comme par principe, on est assis, ça suppose qu'il faut se lever. Enfin, vous voyez, c'est très...
Ouais, ouais. Non, c'est un peu pervers.
J'ai hésité beaucoup, par exemple.
Oui, oui. Non, non, mais bien sûr, mais ça tant mieux. Mais c'est parce qu'au départ, je voulais pas faire participer le public et je voulais respecter sa position de spectateur, c'est-à-dire lui... Voilà, il se trouve qu'effectivement, il y a ce vote où il reste assis si... mais bon, c'est une espèce c'est-à-dire de...
On reste passif si on considère, on reste assis donc passif si on considère que c'est un ennemi du peuple.
Oui, c'est ça, ouais.
Donc il faut se lever,
ouais.
Être debout.
Mais ça pose c'est extrêmement ambigu, hein, tout ça. Je pense que c'est un moment où les gens, se disent oui, en même temps, c'est que du théâtre, oui, mais le problème, c'est que c'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, on joue avec des choses extrêmement graves, enfin qui nous feront absolument pas rire dès qu'on va sortir du théâtre.
C'est-à-dire oui, parce qu'on sort du théâtre, on est en campagne électorale, il y a des problèmes écologiques majeurs.
Exactement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les gens rient autant aujourd'hui que cette pièce est devenue une espèce de farce cauchemardesque. C'est qu'elle vient tellement cristalliser des angoisses réelles qu'on vit tous les jours en ce moment. Qu'il y a un effet de catharsis dans le spectacle qui fait que les gens se soulagent d'entendre des choses horribles.
Jean-François Sivadier, y a-t-il un mot du théâtre que vous aimez par-dessus tout?
Oui, c'est un mot que j'emploie beaucoup, enfin de moins en moins avec les comédiens avec qui je travaille parce qu'ils commencent à le connaître par cœur, ils en ont un peu marre, c'est l'étonnement.
Quelle définition vous donneriez ou vous donnez à l'étonnement?
L'étonnement, c'est une façon de s'étonner de tout, de ce qu'on fait, de ce que font les partenaires, du public, du texte, de soi-même. C'est une façon de réenchanter les choses, de ne jamais s'y habituer, de ne jamais les banaliser, mais de les rendre extraordinaires. Dès qu'on regarde un partenaire avec un grand étonnement, on va magnifier cette personne. On va la rendre belle, intéressante, avant même qu'elle fasse quoi que ce soit.
Et c'est un mot qui vaut aussi pour le public. Est-ce qu'on vient vous voir pour être étonné?
Bah oui, bien sûr. Parce que quand on vient au théâtre, on attend effectivement d'être étonné. Et en général, quand l'étonnement commence à se dissoudre, c'est là que l'ennui arrive.
Alors, on va parler de mots encore avec Lucie Bouteloup, qui, toutes les semaines, vient nous gratouiller l'oreille. Donc, je vous présente Jean-François Sivadier.
Bonjour.
Lucie Bouteloup.
Bonjour.
La puce à l'oreille.
Alors, ma chère Lucie, quelle est l'expression qui va nous gratouiller ou titiller l'oreille aujourd'hui?
Eh bien, figurez-vous, mon cher Pascal, que je m'étonne, moi aussi, beaucoup, puisqu'on dirait que le studio a été mis à sac aujourd'hui.
Ah bon? Mais non, pas du tout, tout
mais
est en
si,
ordre.
Tout à fait, le studio a été mis à sac. Voilà donc l'expression du jour, et pour nous aider à y mettre un peu d'ordre, eh bien, l'ami Jean Pruvot, le roi des dictionnaires, est avec nous dans le studio. Avec nous également les CP-CE2 de Delphine Pereira Souza de l'école Saint-Ouen à Paris, qui vont nous régaler avec leur imagination toujours aussi foisonnante. Mettre à sac dans la puce, pas de doute, l'affaire est dans le sac.
Pour moi, mettre à sac, c'est un peu saccager.
Ça veut dire vendre quelque chose, comme quand tu vends quelque chose et que tu le mets dans un sac.
Moi, je dirais le contraire. Pour moi, mettre à sac, c'est acheter quelque chose et du coup, quand tu achètes quelque chose, tu le mets dans un sac et tu repars avec.
Illuminer. Parce qu'on cherche un sac qui convient et puis on illumine les autres sacs jusqu'à trouver le bon.
Ça veut dire mettre tout en bazar et après tu laisses comme ça et tu rentres chez toi. Parce que le sac qui a un mot un petit peu méchant.
Ça peut vouloir dire que t'as emballé tous les meubles qu'il y a dans la pièce et que tu vas un peu déménager en fait.
C'est un maître ou une maîtresse qui achète quelque chose.
Pour moi, mettre à sac, c'est un mètre pour calculer combien de fait centimètres le sac.
La puce à l'oreille. Ta, 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 ta.
Alors, Jean, maître à sac, le sac, un mot un peu méchant, ou alors le maître comme le maître d'école, ah, ou écoutez, le maître c'est, mesureur.
C'est délicieux. Un poète aurait aimé trouver ça, le maître et maillac sans circonflexe, TRE, à sac. Bon, alors c'est vraiment le verbe maître à sac. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la première petite fille dit saccager, et elle tombe presque juste. Hein. D'autres qui évoquent vendre, acheter. Bon,
pour ben, mettre dans un sac.
Pour mettre dans un sac, c'est vrai. Sauf qu'on va enlever vendre et acheter, on va mettre voler. Et dans ce cas-là, on sera juste. Parce que quand on vole, on met à sac. Et puis quand on vole, on pille. Et piller, c'est pas voler discrètement et la dérober. Hein. C'est saccager, prendre tout.
Tout mettre en bazar.
Voilà, tout mettre en bazar. Donc, ils sont très près de la vérité.
Tout mettre sans dessus dessous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, mettre à sac, piller, mettre sans dessus dessous?
Oui, c'est ça. Et alors, ils ont très bien compris que c'est le mot sac. C'est-à-dire le voleur qui a un sac dans lequel il met tout ce qu'il vient de piller. Et donc, ça nous a donné un mot italien qui était mettere a sacco, mettre dans le sac, dans le fond, ce qu'on venait de piller. Et c'était un mot allemand aussi.
Le mot allemand, donc, c'était sackmann, littéralement, l'homme au sac.
Au sac, c'était ça. Mettre à sac, c'est aussi parfois volontairement démolir tout ce qu'il y a dans une ville, piller en même temps, mais être assez méchant. On peut voler sans mettre à sac. Mais on ne met pas à sac sans voler. Le sac a aussi, on l'apprend en histoire, on parle du sac de Béziers. Dans les guerres de religion, quand par exemple les protestants ou les catholiques s'emparaient d'une ville, on parlait du sac d'eux. On le trouve dans les livres d'histoire. Et puis alors, il y a toujours l'idée aussi négative du sac. Hein. T'es habillé comme un sac, me dit mon épouse.
Sympa.
Non, j'exagère. Mais bon,
oui, comme on dirait sac à vin.
On a là des références communes. Donc voilà, sac n'est pas un mot très gentil ici.
Alors l'expression semble avoir franchi des frontières puisqu'on la retrouve aux États-Unis, en Italie bien sûr, puisque du coup on a compris que cette expression venait de l'italien, en Espagne également. En Allemagne, en revanche, on met en gravat et en cendre. Ça donne une impression du chaos. Hein.
Oui, et on a détruit la ville, c'est bien le sac d'une ville. Hein.
Et en Roumanie, on passe par le feu et par le sabre.
Alors, il y a en Italie aussi mettre à fer et feu. Vous voyez, c'est un peu la même idée, là. C'est vraiment tuer, quoi.
Eh bien, merci, Jean, de nous avoir aidé à remettre un peu d'ordre dans la puce et de nous avoir une fois encore si bien accompagnés. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien, j'ai le plaisir de rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre dernier ouvrage, Les secrets des mots, paru à la librairie Vuibert, et que nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine autour d'une nouvelle expression. D'ici là, portez-vous bien, Jean.
Ah, merci beaucoup, Lucie, vous aussi.
Merci à vous, merci, Lucie. Jean-François Sivadi, il y a peu d'expressions populaires autour du théâtre. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vraiment trouvé. En revanche, il y a un nombre considérable de superstitions hein, autour des mots qu'il faut prononcer ou qu'on ne doit pas prononcer.
Au théâtre. La corde.
Oui, ça c'est épouvantable. Racontez-nous pourquoi.
Oh là là, je sais plus, ça y est, c'est à cause des bateaux, des marins. En revanche, je sais pourquoi on dit merde au théâtre.
Pourquoi on dit merde? Non.
Vous savez pas?
Non, moi je savais qu'on pouvait pas dire lapin par exemple, mais pourquoi on dit merde?
Non, on dit merde parce que quand il y avait des représentations théâtrales, genre 19e, etc., et qu'il y avait les chevaux qui amenaient les spectateurs avec des calèches, avec des carrosses et tout ça devant les théâtres, et qui restaient devant le théâtre pendant la représentation, plus il y avait de merde à la fin devant le théâtre, plus il y avait de spectateurs. Ça voulait dire que il y a...
Donc c'était bon signe.
Ouais, c'était bon signe. C'est pour ça qu'on dit merde.
Donc je vous dis merde.
Ah ben ok. Il faut jamais dire merci après.
Ah, voilà. Ouais. Donc salut Jean-François Sivadier. Votre mise en scène, Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen, est à voir au théâtre de l'Odéon jusqu'au 15 juin et c'est à peu près complet ou presque, non? Mm-hmm. Toutes les infos sur la page de l'émission RFI.fr et sur la page Facebook. Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci à vous, à demain.